Seigneur, nous voici devant toi. En ce jour où nous nous souvenons de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur les disciples, nous ne voulons pas que nous nous limiter à la célébration d'une fête. Nous ne voulons pas que nous souvenir d'un événement qui a existé dans l'histoire. Mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous-mêmes, être embrasés par l'Esprit de la Pentecôte. Nous voulons être nous-mêmes, être saisis par l'Esprit de Pentecôte. Laisse que, Seigneur mon Dieu, que nous soyons cette Église tournée vers l'action de l'Esprit, vers le Saint-Esprit. Aide-nous par ta parole maintenant, ô Père très saint. Parle par la bouche de ton serviteur, saisis nos cœurs. Fais-les, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Amen.
Oh, amen.
Amen.
Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur notre Dieu? Il est merveilleux, n'est-ce pas? Il est digne de louange et d'adoration, l'Éternel notre Dieu. Nous avons eu une semaine merveilleuse. Depuis mardi jusque vendredi, nous étions en séminaire ici de Pentecôte. Dieu nous a fait énormément du bien. Et nous étions en train de parler tout au long de la semaine sur ce thème, le Saint-Esprit et les puissantes actions de son onction. Je ne saurais pas revenir sur toutes ces choses que nous avons eues à partager ensemble. Nous voulons juste prendre encore quelque chose dans cet enseignement. J'ai lu, relire encore un des livres qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien et qui m'a beaucoup inspiré dans mon enseignement ici. Le Saint-Esprit est un ami et doit être un ami pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit veut et tient à avoir une relation et une communion personnelle avec chaque membre de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons cessé de dire au courant de la semaine que cette Église dans laquelle vous vous retrouvez, vous avez la fierté d'être membre, cette Église tire son origine et où elle est née par l'Esprit et dans l'Esprit. Et ce qui a commencé par l'Esprit ne peut pas continuer sans l'Esprit. On ne peut pas abandonner l'Esprit en cours de route et continuer à nous appeler Église du Seigneur. Sans l'Esprit, nous ne sommes plus l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est née par l'Esprit et l'Église de Jésus-Christ est appelée à grandir et à continuer sa marche par l'Esprit. Quelqu'un dit amen après moi.
Amen.
Très important, frères et sœurs, si nous voulons continuer à demeurer l'Église de Jésus-Christ, nous devons être des amoureux, des affectionnés du Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un a dit, comment Dieu fera-t-il pour pouvoir conduire chez lui tous ces chrétiens répandus dans le monde entier? Il y en a des jaunes, il y en a des rouges, des noirs, des blancs. Il y a des Chinois qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, des Japonais, des Coréens. Il y en a plusieurs, surtout en Corée, qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, avec des petits yeux comme ça, comme j'en vois là, celle-là, elle a des petits yeux comme une Coréenne. Et donc, il y a des Noirs comme moi qui sont chrétiens. Comment Dieu fera-t-il? Un des enfants de Dieu a réfléchi en disant, ce sera si simple pour Dieu, il appellera seulement son esprit. Et tous ceux en qui habite le Saint-Esprit iront. Parce qu'il appellera seulement le Saint-Esprit. Ça va être comme l'effet d'un aimant qui attire tout ce qui est attirable par l'aimant. Paf, il appelle le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en train de partir, et tous ceux qui ont l'Esprit en eux partiront aussi. Alléluia. As-tu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu aimes communier avec l'Esprit de Jésus-Christ? Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit et les puissantes actions de son onction. On avait vu déjà, je crois, 3-5 points Nous sommes allés jusqu'au cinquième, donc cinquième point. Nous verrons le sixième, si Dieu nous le permet, nous prendrons aussi le sixième aujourd'hui. Le premier point, c'était le Saint-Esprit et son onction feront en sorte que vous receviez une aide surnaturelle pour votre vie et votre ministère. Le frère Willy Ketengekachecha nous a conduit dans la prière par rapport à cela. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit et son onction feront en sorte que vous soyez élevés dans les ministères ou dans vos activités. Et je disais à l'église que chaque fois que je parle du ministère, il ne faut pas te soustraire si tu n'es pas dans le ministère. Et souviens-toi que ton ministère, c'est aussi ton activité. C'est ce que tu fais comme travail dans la vie. Et tu as besoin du secours du Saint-Esprit. Le troisième point, c'est le Saint-Esprit et son onction vous affermiront dans les ministères. Le Saint-Esprit et son onction vous affermiront dans le ministère. Dieu est le seul qui affermit. On a défini le verbe affermir comme étant rendre ferme, rendre stable, rendre solide, comme étant rendre plus fort, plus assuré. Et Dieu seul par son esprit peut affermir les gens afin que vous ne soyez pas, que vous soyez inébranlable. Et nous avons dit que affermir est tout à fait le contraire d'affaiblir et d'ébranler. Quatrième point, c'est le Saint-Esprit et son onction amèneront de la force dans votre ministère. Ça, c'est le quatrième point. Et le cinquième point par lequel nous terminions vendredi, c'est le Saint-Esprit et son onction vous préserveront de la séduction. Et nous étions en train de dire que la séduction est en train de se vivre donc dans le monde aujourd'hui à un rythme qui effraie. La séduction qui a été définie comme étant l'action de séduire, comme étant un attrait puissant qui se dégage de quelqu'un ou de quelque chose. La séduction, et nous avons dit selon le dictionnaire biblique, était le fruit de la tentation. Elle a toujours pour auteur quelqu'un qui nous veut du mal. Elle cherche à nous détourner de l'obéissance due à Dieu. La séduction, le monde est en train de séduire aujourd'hui, voire même les enfants de Dieu. Et nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas séduits. Jésus, s'adressant donc aux disciples, va leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Matthieu 24, verset 4. Et David était conscient que la séduction était toujours là. Ainsi, par le fait d'être saisi par le Saint-Esprit, et d'avoir loin du Saint-Esprit, David a su résister à la séduction. Nous devons bien aimer dans le Seigneur, nous attendre au Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas séduits. La séduction peut vous conduire même dans la cécité. Vous devenez comme un aveugle. Vous ne voyez plus. La séduction. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les gens agissent comme des aveugles. Ils ont condamné autre chose, des mauvaises choses, autrefois les mauvaises choses. Aujourd'hui, ils disent que c'est normal que quelqu'un puisse vivre aujourd'hui. Vous voyez avec quelle légèreté M. Hollande a signé et promulgué la loi qui dit mariage pour tous. Mais le mariage, c'est pour tout le monde. À qui on a refusé le mariage? Il faut inventer une loi. Le mariage, Dieu a donné le mariage pour son peuple. Pour les enfants, pour l'homme qui est né, l'homme et la femme. Mais il faut inventer une autre loi pour parler de mariage pour tous. Qui a interdit à qui de se marier? Pour qu'on invente une loi. Tout simplement parce que le cœur de l'homme se détourne de la voix de son créateur. Et il porte la lourde responsabilité dans l'histoire de la France que c'est le président qui avait autorisé ça. Il a un courage particulier, je vous assure. Affrontez Dieu. Un jour, Dieu lui rappellera cela. Dieu a fait qu'un homme puisse se marier avec une femme. Oh, alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Mais pour éviter, fuir la séduction, nous avons besoin d'être saisis par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit fera de toi un dur à croquer, nous le disions vendredi, et tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Sixième point, le Saint-Esprit et son onction vous délivreront des afflictions du diable.
en étudiant et en analysant bien la vie de David, parce qu'au fait, c'est le psaume 89 qui est le soubassement de notre étude tout au long de ce séminaire. Parce qu'il nous parle concrètement de la visitation du Saint-Esprit, son onction, dans la marche de tous les jours du roi David. Et nous avons exploité donc ce passage. En étudiant et en analysant bien la vie de David, disais-je, il ressort aussi qu'il était convaincu que la maladie et d'autres afflictions ne pouvaient pas l'atteindre, si pas alors l'anéantir à cause du Saint-Esprit et de son onction sur sa vie. Dans ce psaume 89, verset 23, il est écrit que « Et les méchants ne l'opprimera point. » C'est Dieu qui parle concernant David. Que le méchant n'opprimera pas David. Le méchant n'opprimera point David, le méchant. Ainsi, vous l'entendez dire dans psaume 103, David qui parle dans psaume 103, et au verset 1er jusqu'au verset 5, j'aime les paroles de David, spécialement dans ces passages ici, où il dit que « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alléluia. « Qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Ce sont les paroles d'un homme averti qui comprenait qu'est-ce qu'il retirait de sa relation avec Dieu et avec son esprit. Alléluia. L'Éternel est celui qui pardonne toutes tes iniquités, mais il est également celui qui guérit toutes tes maladies. Pas seulement quelques-unes, mais toutes tes maladies, disait David. Il s'adressait à son âme. Mon âme ne l'oublie jamais. L'Éternel est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Alors célèbre-le. Alors adore-le. Alors reste attaché à lui. Alléluia. Écoutez, si par le Saint-Esprit et son onction sur lui, David a expérimenté la guérison et la bonne santé, j'aimerais vous dire que vous expérimenterez à votre tour la guérison et la bonne santé si vous restez attaché à l'Esprit de Dieu et à son onction. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Vous expérimenterez la même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Mais demandez cela. Demandez et il vous sera donné. Oh, alléluia. Jacques 4, verset 2, la partie C dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà le problème. Le problème, ce n'est pas que ce que ce dont vous avez besoin soit en manque auprès de votre Père. Non, le problème, c'est parce que vous n'avez pas demandé. C'est disponible, mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas demandé. Semblable un peu à ces grands frères du ce fils prodigue. Le fils prodigue lui a demandé, donne-moi ma part. Mais malheureusement, le mal n'était pas dans le sens de demander, mais le mal c'était dans l'utilisation. Il est allé, il a mal utilisé. Mais le frère aîné, lui, n'était pas parti. Mais malheureusement, je reviendrai sur cet enseignement-là. Mais malheureusement, il était perdu tout en étant à la maison. Celui-là qui est parti est perdu loin de la maison, mais celui qui était resté était perdu dans la maison. Il vivait comme un esclave dans la maison. Il est malheureux, tout triste, parce que quand le fils prodigue revient, on fait une grande fête pour lui et il s'adresse maintenant à son père, le frère aîné. Moi qui suis resté ici dans cette maison, je n'étais pas troublé, je n'ai pas fait de problème comme l'autre. Tu ne m'as jamais donné une brebis, un veau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et le père dira quoi? Mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Comme pour dire, depuis tout ce temps, pourquoi tu n'as pas joui de ce qui est à toi? Vous voyez? Tout en étant dans la maison, mais il était perdu. Il vivait comme un esclave, il vivait comme quelqu'un qui n'avait rien. Tout ce qui est à moi est à toi, mon fils. Alors, il va vivre à côté de la, du bonheur, mais comme un esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vivons pas comme ne pouvons pas bénéficier de ces dons précieux du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Oh, alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Désirons, demandons. Voilà ce frère aîné. Le père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi, tu ne me l'as pas demandé. Tu ne me l'as pas demandé. Jacques 4 dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas, c'est pourquoi vous ne possédez pas. Allez-y avec moi aussi dans Luc chapitre 11, à partir du verset 9. Lisons cette histoire ensemble. Enfin, laissez-moi lire et suivez la lecture. Chapitre 11 de Luc, à partir du verset 9, il est écrit quoi? Jésus dit, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je m'arrête ici pour dire, il ne faut jamais ouvrir, il faut seulement frapper. Ok? Parce qu'il y a un, chacun a son mouvement à faire. Si vous faites le mouvement qui n'est pas le vôtre, on fera votre mouvement. Vous, c'est frapper et l'autre va ouvrir. Mais si vous ouvrez, l'autre va frapper. Oh, l'église est avec moi.
Amen.
N'ouvrez pas parce que l'autre va frapper. Parce qu'il doit aussi faire un mouvement. Oh, mais frappez et l'on. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Où est-ce que nous sommes encore? Verset 10 donc. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, suivez la suite, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
Amen.
Oh, alléluia.
Amen.
C'est fort ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, vous qui êtes méchants, quand vos enfants vous demandent du pain, je n'ai pas vu un seul donner donc une pierre à son enfant. Je n'ai pas vu un seul de vous, vous qui êtes méchants de l'intérieur, donnez le serpent à votre enfant qui vous a demandé du poisson. Jamais je n'ai vu un seul donner le scorpion à son enfant qui lui a demandé un œuf. Vous donnez de bonnes choses à vos enfants, mais à combien plus forte raison votre Père Céleste, celui que beaucoup ont pris l'habitude d'appeler le bon Dieu. Il les appelle le bon Dieu comprendra. Le bon Dieu. Oh bon Dieu. Oh. Le bon Dieu comprendra. Le bon Dieu comprendra. Il n'est pas seulement le bon Dieu, il est aussi le Dieu juste. Alléluia. Mais vous avez raison, ils ont raison de dire le bon Dieu parce qu'il est réellement bon. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À qui? À ceux qui le lui demandent. Le problème c'est que vous ne demandez pas. Voilà pourquoi vous ne recevez pas. Il y a des gens qui ont peur de demander à Dieu le Saint-Esprit. Peut-être parce qu'ils vivent dans le péché. Ah, ils se disent, à cause de mon péché, je vais demander au Saint-Esprit, à Dieu de me donner le Saint-Esprit. Mais si vous avez mis votre vie en ordre, vous marchez en nouveauté de vie, c'est de votre droit de prendre du temps pour demander le Saint-Esprit à Dieu. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et dans Matthieu 21, verset 22, Jésus a dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. J'aime ça. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La foi s'exerce dans la prière. Vous ne pouvez pas dire je suis un homme de foi, je suis une femme de foi sans la prière. Non, les hommes et les femmes de foi sont aussi les hommes et les femmes de prière. Parce qu'ils savent que leur foi ne s'exerce que dans la prière. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de prier. Ils se disent, ils sont enfants de Dieu. Dieu n'a qu'à prendre soin d'eux. Dieu n'a qu'à comprendre que moi j'ai des besoins. Du reste, il avait dit qu'avant même que je n'ai dit quelque chose, qu'il la connaît déjà. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit prier sans cesse. Vous savez, la Bible se complète par elle-même. Hein? Dieu, c'est aussi celui qui a dit prier sans cesse. Et quand il était en train de faire face à la mort qui venait, il a dit à Pierre, à Jacques et à Jean de pouvoir veiller avec lui dans la prière. Et il se retire d'eux. Quand il revient, il les trouve tous endormis. Il dit à Pierre, j'ai, entre guillemets, c'est comme s'il était en train de lui dire, il n'y a pas longtemps, tu venais de dire que tu iras avec moi jusqu'à la mort. Tu dors déjà. Tu n'as même pas veillé une seule heure avec moi dans la prière. Il y a des gens, dès qu'ils commencent leur prière, dès qu'ils ont commencé la prière, à la troisième minute, ils sont allés au ciel déjà. Ou ils ont traversé l'Atlantique. C'est à peine qu'ils commençaient de prier. Quand ils ne prient pas, le sommeil n'est pas là. Mais dès qu'ils commencent la prière, c'est comme si on leur dit, on les a donné la piqûre, donc il dit dormez maintenant. Le diable t'empêchera toujours de prier parce qu'il sait que derrière ta prière est attachée ta bénédiction. Alors il va t'empêcher de prier pour que tu ne puisses pas recevoir ta bénédiction. Vous savez, il faut être stratège. Hein? Quand on prie, tu n'es pas qui t'a cloué à ton lit. Tu pries avec la couverture à ce niveau ici. Jésus, Jésus. Mais tu ne peux que dormir. Oh, tu ne peux que dormir. Tu pries à genoux, ta tête sur le lit comme ça. Mais il y a des gens, mais ça c'est un beau lit. Il peut décoller même pendant 3 heures endormi. Il faut savoir, maintenant que le sommeil me cherche, moi je dois fuir. Je me tiens debout dans ma chambre, je suis en train de marcher. Je commence à prier à tue-tête. Le sommeil ne te prendra pas. Amen. Vous pensez que Jésus faisait quoi quand il passait toute une nuit sur la montagne seul? Vous pensez qu'il faisait quoi? Il prenait une bonne position avec une pierre là. Et il se dirigeait. Père, oh Père. Mais il devrait dormir. C'est qu'il prenait multiples, différentes positions. Quelquefois il est à genoux, quelquefois il est assis, quelquefois il est debout, en train de marcher. Il faut changer de position. C'est Jésus qui a dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair était comment? Elle était forte. Mais que la chair est faible. Vous priez, mais vous êtes dans la chair. Ne l'oubliez jamais. Alors il faut prendre des stratégies pour que la chair ne vienne pas à vous voler ce temps précieux du rendez-vous avec votre Père Céleste. Amen. Oh alléluia.
Amen.
Oh alléluia.
Amen.
Ceux qui reçoivent dans la prière, ce sont des hommes et des femmes persévérantes. Persévérants. Ils persévèrent dans la prière jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Quelqu'un dit amen. Ce sont des jusqu'au boutistes. Les hommes de foi dans la prière sont des jusqu'au boutistes. À l'instar de Jacob, je ne te laisserai aller. Que tu ne m'ailles béni. Je ne te laisserai aller. Laisse-moi, Jacob. Les jours arrivent. Laisse-moi, Jacob. Je ne te laisserai aller. Que tu ne m'ailles béni. Tu as la solution facile. Bénis-moi et tu partiras. Oh, alléluia. Alléluia.
Amen.
Des importuneurs, passez-moi l'expression, qui importunent le juge. Dieu en tant que juge, vous connaissez cette histoire de cette femme avec le juge unique. Je vais être toujours devant sa porte jusqu'à ce qu'il me fasse justice. Vous importunez le Père seulement pour des besoins de ce monde. Seigneur, dans la ta chemise, il y a pembe, il y a kitoko kala. Seigneur, Seigneur, là tu peux passer des heures et des heures. D'où je viens, quelqu'un a dit, nous on ne prie pas pour avoir une paire de chaussures. Quand j'ai besoin d'une paire de chaussures, je me décide d'aller la prendre. Vous voyez, c'est un danger. Mais ils ont aussi d'autres besoins pour lesquels Dieu les coince. Ah là, ils prient. Ailleurs, on ne prie pas pour la nourriture. Oh, nous prions pour avoir seulement les poissons dans l'assiette. Nous prions pour ça. Oui, Dieu veut que dans notre coin ici, nous prions pour ça.
Même tout en, dans cette ville ici, il y a des gens qui ne prient pas pour la nourriture. Ils prient pour autre chose. Dieu va créer des besoins. Parce que tu comprends difficilement. Au lieu de prier toi-même comme ça, tu veux seulement que Dieu crée des besoins pour que tu commences à prier. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ne te mets pas en prière seulement pour des besoins de la chair. Cravate. C'est quoi une cravate? C'est un bout de tissu. C'est seulement. C'est quoi? C'est quoi ça? Et tu perdrais 4 heures à prier pour une cravate. Oh, oh Seigneur, cravate. Cravate moutanée. Oh, oh Seigneur. Oh, pleure comme ça pour le Saint-Esprit. Alléluia. Je vois, il y a des gens qui se disent non, moi pas pour le Saint-Esprit, moi c'est la chemise. Prie pour le Saint-Esprit. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, ne me prive pas la joie de ton esprit. Amen. Seigneur, ne me refuse pas ton Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-moi dans la plénitude de ton esprit. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Non, est-ce que votre amen là, il est malheureux? Est-ce que je cherche un amen des heureux? Oh, alléluia.
Amen.
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est ce que les disciples ont fait dans la chambre haute pendant des jours. Pendant des jours. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 12, il dit, alors ils retournèrent à Jérusalem lorsque leur maître est enlevé. Et ils retournèrent à Jérusalem parce que le maître leur disait, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Nous étions en train de le dire en introduction de cet enseignement que pourquoi Jérusalem? Pour deux raisons. Pourquoi pas ailleurs, Seigneur? À Jérusalem, ici, c'est là qu'on t'a accusé, c'est là qu'on t'a minimisé, on t'a méprisé, c'est là que même des gens ont craché sur toi, c'est là qu'on a placé sur ta tête une couronne d'épines, ta tête, ton visage était tumifié, c'est là qu'on t'a crucifié sur un bois. Ici, c'est là qu'on t'a humilié, c'est là même qu'il est écrit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Seigneur, donne-nous d'aller quand même ailleurs, et non pas à Jérusalem. Dieu dit, Jésus dit, à Jérusalem. Pourquoi? La première raison, c'est celle-ci. C'est que là où même Christ a été humilié, là où même il a été rejeté, là où même il a été renié, que les gens, par la puissance du Saint-Esprit, viennent à tomber sur leurs genoux et à se mettre à se battre à la poitrine en disant, que ferons-nous, hommes frères? Que ferons-nous, hommes frères, pour être sauvés? Mais reconnaître d'abord que celui que nous avons crucifié, c'est lui le Messie qui nous a été envoyé, par lequel nous pouvions être sauvés. Quelqu'un dit amen. Deuxième raison, nous l'avons vu le mardi. Deuxième raison, c'est que là où même eux ont rejeté, ont renié les maîtres, les disciples. Là où même Pierre a dit, je ne les connais pas. Là où même on les a traités de minables, de faibles, d'incapables. Que Dieu puisse les restaurer. Amen, amen. Dieu puisse les restaurer et que Dieu puisse les honorer au même endroit où ils ont été déshonorés par le Saint-Esprit. Ainsi, lorsqu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, Pierre se lèvera et prendra la parole parce qu'on disait qu'ils sont ivres de vin doux. Non, ces hommes ne sont pas ivres comme vous les préconisez, comme vous les pensez. C'est ici la 9e heure. Avez-vous déjà vu quelqu'un s'enivrer à cette heure ici? C'est ici la promesse qui a été faite par Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je rependrai de mon esprit sur toute chair. Oh, alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Oh, alléluia. Et ils prêchent la parole. Et ils prêchent la parole. Leurs cœurs sont déchirés. Ils vont s'écrier, hommes frères. C'est dur ce que vous êtes en train de dire. N'est-ce pas? Après avoir dit, quand on arrêtait Jésus, que son sang retombe sur nous. Mais ce jour-là, il commençait à dire à Pierre, tu veux retomber son sang sur nous? Qu'est-ce qui a fait que la même personne qui était dure de cœur, incapable de saisir le message, maintenant il puisse s'agenouiller? La descente du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons besoin de rechercher cette
cet esprit merveilleux qui a affermi les apôtres. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alors ils retournèrent à Jérusalem. Et quand ils firent donc à Jérusalem, au chapitre toujours premier des Actes des Apôtres, verset 13, il est écrit, quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils montèrent dans la chambre haute. Dans la chambre haute, on n'y va pas là-bas pour aller raconter des histoires. Non. Dans la chambre haute, on n'y va pas pour aller ronfler. La chambre haute est synonyme d'un homme qui s'approche de son Créateur par la prière. C'est dans la chambre haute où même la mort prend la vie. La mort devient vie dans la chambre haute. Ce qui est mort en toi peut revivre lorsque tu te décides d'aller dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute qu'on avait amené cette femme des Actes des Apôtres, Tabitha. Elle est morte. Ceux qui bénéficiaient de son travail disent Basus ou Bakoufa. D'autres peuvent mourir, mais pas Tabitha. Elles ont pris le corps, au lieu d'aller l'enterrer, elles ont pris le corps de Tabitha et ils sont montés, ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont déposé le corps de Tabitha dans la chambre haute. Ils disent maintenant, cherchons un intercesseur. Cherchons un homme de prière. Ah, tiens, il y a Pierre quelque part à Jopé. On est allé chercher Pierre. Quand il est venu, on a dit. Il est dans la chambre haute, son corps est là. Quand il monte dans la chambre haute, quand il redescend avec Tabitha vivante.
Amen.
Un autre homme de l'Ancien Testament a dit à une femme en disant donne-moi ton fils. Au fait, il disait donne-moi ton cadavre. C'est Élie ou Élisée. Il est monté avec ses corps dans la chambre haute. Quand il redescend, il dit femme, voici ton fils est vivant.
Amen.
Oh, où sont les amoureux de la chambre haute? Montrez-moi quelqu'un qui aime demeurer dans la chambre haute. Je vous montrerai quelqu'un qui expérimente le miracle de Dieu. Église du Seigneur, ils sont rentrés dans Jérusalem. Dans leur peur, ils sont allés se réfugier dans la chambre haute. Pas seulement pour s'y réfugier, mais trouver du temps à demander à celui qui avait fait la promesse d'accomplir sa promesse. Et au dixième jour, soudainement, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Le verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Frères, sœurs, nous sommes habitués qu'on nous prêche que nous aurons le visa, que nous aurons ceci et nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est sa relation avec Dieu. L'essentiel, c'est sa communion avec le Saint-Esprit de Dieu. L'essentiel, c'est celle-là. As-tu eu déjà l'essentiel quand tu cours après l'accessoire? As-tu déjà reçu l'essentiel? Plusieurs courent après les accessoires. C'est pourquoi la vie chrétienne est dure à vivre, compliquée à vivre, et pourtant, la vie chrétienne est quelque chose de tout simple. Tout simple, lorsqu'on vit la vie chrétienne avec l'esprit qui a révélé ou donné la vie chrétienne. J'aimerais que nous puissions lever de là où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer la descente du Saint-Esprit. Nous sommes en train de souvenir de la Pentecôte. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, notre Dieu. Gloire au Seigneur. Dimanche passé, nous étions en train de dire qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans son nom. Cette puissance-là, c'est l'action du Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons ensemble, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah.
Jéhovah est son nom.
Chantons Jéhovah.
Jéhovah est son nom.
Jéhovah.
Jéhovah est
sang guerrier. Y a-t-il quelqu'un qui demande le Saint-Esprit au Père? Tu vois, tu aurais voulu que je te demande de demander un pantalon, de l'argent. Ainsi tu es indifférent. Dis à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Dehors, nous sommes en prière. Fatima administratif, nous sommes en prière. Ne soyez pas distraits. Ne promenez pas vos regards. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, oh Dieu. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Jésus. Demande-lui d'allumer le feu de son esprit dans ta vie. Demande-lui d'allumer le feu de son esprit dans ta vie. Shakarabakoto. Reya Bashanda Rabakoto Korobushita. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Gardez vos mains levées. Nous sommes devant le Seigneur. Nos yeux sont fermés. Les yeux en train de chanter un cantique au croix de la semaine ici en anglais. Qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes. La puissance de l'Esprit de Dieu, elle se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. There is a power in the name of Jesus to break every chain. To break every chain. Alléluia. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus.
There is a power. chain.
Tu brèques toutes les chaînes.
To break every chain.
Oh, oh, oh.
Restons encore debout, faisons silence devant le Seigneur. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser toute chaîne. La puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui encore, elle brise toute chaîne. Il y a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes peuvent se rompre encore. Les chaînes peuvent se rompre encore. Les chaînes peuvent se rompre encore. Ah, j'ai dit que les chaînes peuvent se rompre encore. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser toute chaîne. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons demeurer, Seigneur mon Dieu, au bas de ta croix. Nous voulons demeurer fidèles à ta parole. Nous voulons marcher dans tes voies. Oui, Seigneur. Il y a réellement de la puissance dans le nom de Jésus pour briser toute chaîne. Merci Seigneur. Amen. Reprenez votre place.